Méditation biblique au micro Jacques Marchal. Sur l'unité. Pour ce faire, nous allons ouvrir la Bible à de nombreuses reprises, et plus particulièrement dans les épîtres de Paul aux Corinthiens. On parle beaucoup d'unité religieuse, mais ce terme n'est cependant pas très bien défini dans les esprits. Il est même paradoxal de constater que le principe de l'unité revêt une importance souvent très variable selon la signification qu'on lui attribue. Lorsque l'on a terminé la lecture des épîtres aux Corinthiens, on ne peut être que frappé par l'une des idées maîtresses qui domine tout au long des pages de ces importants écrits, l'unité qui est déjà exigée des chrétiens de cette ville. Dans sa première lettre, il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Mais œuvrer dans un même esprit et dans un même sentiment sous-entend nécessairement avoir une croyance commune. En suivant cette logique, on devrait nécessairement être amené à rechercher avant tout une unité de croyance. Le seul moyen d'y arriver est de puiser à la même source. En Romains chapitre 10 et verset 17, l'apôtre Paul affirme que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tout le monde écoute et croit la même parole de Christ, on doit nécessairement parvenir à une parfaite harmonie en ce qui concerne la croyance de chacun. N'est-ce pas simple? N'est-ce pas d'une logique irréfutable? Par contre, si on accepte de mélanger à cette parole de Christ, à ses enseignements, les traditions humaines, on s'éloigne automatiquement de cette même unité. De plus, nous devons être capables de discerner ce qui distingue la foi pure des questions d'opinion. Seul ce qui est enseigné dans la parole de Dieu est une question de foi. La position prise par chacun au sujet des choses que n'enseigne pas la Bible appartient au domaine des opinions personnelles et ne mérite par conséquent pas qu'on en débatte, en dehors bien sûr d'une charité élémentaire. Par contre, nous devons adopter en matière de foi une attitude d'intransigeance absolue, car il s'agit là d'un terrain ferme, la volonté de notre Dieu. L'apôtre Paul insiste en vertu de l'autorité de Jésus-Christ, que tous les chrétiens tiennent un même langage. Il attend par là qu'ils soient tous en parfaite association quant à leur attitude doctrinale ainsi que dans l'activité développée au sein de l'Église, culte, réunion, etc. Si un prédicateur quelconque enseignait que le baptême peut être administré par aspersion pour se rétracter le lendemain et dire qu'il ne peut s'agir aux yeux de Dieu que d'une immersion, nous pourrions dire que son enseignement manque de consistance et n'est pas digne de notre confiance. Si en plus de cela, il prêchait en disant qu'il faut être baptisé pour faire partie de l'Église acquise par Christ, pour ensuite changer d'avis et affirmer qu'il n'en est rien, alors nous continuerions à perdre confiance en lui. Par ailleurs, si le même homme venait nous dire qu'un bébé peut être baptisé pour devenir membre de l'Église, pour ensuite s'enseigner qu'il faut en réalité être un croyant repentant avant d'être baptisé, nous aurions parfaitement raison de dire qu'il n'a d'égard ni pour son enseignement personnel, ni pour la vérité en général. Ceci m'amène à vous faire part d'une série de réflexions que je me suis faites tout au long des 10 dernières années. Si nous estimons qu'un homme est inconséquent parce qu'il enseigne et pratique ces choses, pourquoi dès lors considérer cela comme normal quand il s'agit de différents groupes se nommant Église? Si un simple individu ne mérite pas notre confiance en prêchant des doctrines contradictoires et fantaisistes pour l'accorder inconditionnellement à des groupements religieux qui font exactement la même chose, n'est-ce pas là un illogisme flagrant? Si chaque prédicateur ou enseignant de la Bible de prêcher ou d'enseigner strictement que ce qui est contenu dans la Bible. Ils seraient tous en parfaite harmonie de langage et professeraient exactement les mêmes choses. On peut difficilement concevoir une telle inconsistance, une telle légèreté, de telles contradictions dans l'enseignement et la pratique des apôtres. Ils utilisaient un langage unique, car ils ne prêchaient qu'une seule chose, l'Évangile révélé par Dieu. Si nous prêchions encore ce même évangile, nous aurions toujours une parfaite unité de langage. À la lecture de 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 11 et 12, on peut aisément constater la déplorable division qui régnait dans l'église de Corinthe. La situation existant dans cette ville était comparable en bien des points à celle de nombreuses dénominations dites chrétiennes qui déchirent littéralement le monde religieux d'aujourd'hui. Certains croyants s'étaient ralliés à la bannière de Paul, tandis que d'autres se faisaient disciples d'Apollos ou encore de Céphas. Ils en étaient arrivés jusqu'à porter le nom de ces hommes afin d'établir une distinction entre eux. Et l'apôtre Paul s'insurge violemment contre cette pratique naissante et pernicieuse en leur ordonnant, au nom de Jésus-Christ, à ne pas se diviser de la sorte. Ces divisions n'étaient cependant pas très nettes. Aucune barrière visible ne s'est dressée entre elles. Mais cela n'empêche nullement Paul de les condamner avec une rare énergie. Que redirait-il alors en voyant ce que les hommes sont arrivés à faire de nos jours? De véritables murs se dressent entre les églises diverses, et l'on en arrive à pratiquement se haïr. Jésus a prié pour que tous les croyants soient un. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, dit-il, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que tout le monde croie que tu m'as envoyé. Nous apprenons par là que Jésus a prié pour une unité qui puisse être vue et appréciée par toute la population du globe. S'il s'attendait à ce que les hommes voient cette unité monolithique et soient par voie de conséquence ce qu'on vivait à la fois, nous pouvons en conclure qu'il a prié pour une unité d'organisation. Le Fils de l'homme n'a fondé qu'une seule et unique Église dont il est incontestablement le chef. Si son royaume était divisé, il n'aurait aucun espoir de pouvoir subsister. Étant donné que le royaume de Christ est l'Église, il en découle qu'une Église divisée ne peut se perpétuer dans le monde. Le seul espoir de l'Église du Seigneur est de pouvoir maintenir une unité de croyance, une unité de langage et une unité d'organisation. Tout cela est bien joli, me direz-vous, mais comment peut-on parvenir à cette unité que vous prenez avec tant de chaleur? Je crois qu'on peut facilement y arriver. Mais pour autant qu'on s'applique avec sincérité à le vouloir vraiment. Autrement dit, faire abstraction totale de toute idée préconçue et de tout esprit de clocher. Toujours dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 13 à 15, Paul enseigne aux croyants de Corinthe qu'ils n'ont absolument pas le droit de porter le nom de quelqu'un que ce soit. Il s'écrit, « Chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Tous ces noms suggéraient en fait que Jésus-Christ était divisé, que l'un de ces hommes avait été crucifié pour eux, ou encore que ces gens avaient été baptisés au nom de ces prédicateurs. Tout cela était absurde. Nous voyons donc qu'il ne nous est pas permis de porter le nom d'un homme qui n'a pas été crucifié pour nous. Cela nous montre également que Dieu nous interdit de porter un autre nom que celui pour lequel nous avons été ensevelis dans les eaux du baptême. Les noms humains et sectaires tendent à diviser, à classifier ceux qui se réclament du christianisme. Non seulement ils déchirent le monde religieux, mais de plus, ils dépouillent Jésus-Christ de l'honneur et de la gloire qui lui reviennent à lui seul. Le second pas à faire dans la voie de l'unité totale et de répudier toutes les doctrines et toutes les pratiques humaines qui entachent la religion du Christ. Pour ce faire, il est essentiel d'interroger les Écritures afin de discerner si ce que nous croyons et pratiquons est en parfait accord avec la volonté de Dieu qui est exprimée clairement dans la Bible. Dès qu'on en est arrivé à la conclusion que telle ou telle chose n'est pas conforme à cette volonté, il nous appartient de la rejeter séance tenante. D'autre part, il nous faut accepter également ce que la Bible enseigne, et même si cela ne s'accorde pas avec ce que nous avons cru et pratiqué jusqu'à présent. En bref, nous devons absolument trouver une base biblique à ce que nous faisons en matière de religion, sans quoi nous ne serions que des instruments de tradition et usage purement humain. Cela revient encore à dire, est-ce Dieu que je veux servir ou les hommes? Les enseignements de Jésus doivent devenir notre loi, notre règle de foi, notre règle de pratique. Mais non seulement nous devons être désireux de nous conformer à cette volonté divine, mais de plus nous devons être fermes et insister pour que les autres, notre prochain, appliquent également le même principe fondamental. En Matthieu 15, le Seigneur dit entre autres, « Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Et en Marc 7, il fustige les dirigeants religieux en ces termes, « C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » L'apôtre Paul, dans une autre épître, adressée cette fois aux Galates, avertit l'humanité qu'un évangile perverti ou modifié ne peut conduire qu'à la damnation éternelle. Tout cela ne fait-il pas réfléchir? Et ne nous pousse-t-il pas à commencer à nous interroger soigneusement sur l'Église à laquelle nous appartenons? Vous ne pouvez soutenir une Église qui n'enseigne pas toute la vérité, car sans cela, vous porteriez votre part de responsabilité dans ces erreurs qui mènent ses membres à la perdition. Désirez-vous l'unité du peuple de Dieu ou cherchez-vous un compromis entre les deux? Écoutez Jésus vous dire, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement. Je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement en tant qu'art, nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure. Le Seigneur même, le Seigneur.